Eh bien, être queer ou trans, ben c'est pas toujours simple. Imaginez donc d'être queer ou trans et francophone dans un milieu majoritairement anglophone, donc dans le rest of Canada, le reste du Canada, ben ça peut l'être encore moins. Puis on a décidé qu'en cette journée de la francophonie, ben ça serait peut-être intéressant de parler de cette réalité-là pour les francophones qui vivent à l'extérieur du Québec où nous sommes majoritaires. Francesco McAllister Caruso est éditeur francophone au Centre de recherche communautaire du Canada. Il a écrit un article sur la question que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Francesco.
Merci, Denis Martin.
Alors, Francesco, on te rejoint à Ottawa. Dis-moi, quel pronom et quel accord tu utilises?
J'utilise les pronoms « il » ou « elle ». Les deux me vont avec des accords masculins.
Merci. Alors, commençons avec la première question qui me vient en tête. Pourquoi, toi, tu as décidé d'écrire cet article-là?
Ouf, ben écoute, il y a plusieurs raisons, mais je dirais que d'abord, quand on pense au Canada, surtout du point de vue de nous en tant que Canadiens, on se dit qu'on est souvent fiers d'être un pays bilingue, où est-ce qu'on parle anglais-français, puis on est aussi fiers d'être un pays qui soutient les droits LGBTQ2, mais on parle rarement de comment est-ce qu'on peut soutenir les personnes qui vivent à ces intersections-là. Donc, je me suis dit que, ben, on est tous bien d'en parler pendant le mois de la francophonie pour attirer un peu d'attention à ces enjeux-là.
Là, t'as sorti le mot intersectionnel ou intersection, qui est un gros mot au Québec, comme racisme systémique, là, on le sait. Mais cela dit, c'est quoi la réalité pour une personne queer qui vit sa queeritude, si tu me permets, ou sa transitude, et le vivre dans un milieu minoritaire? C'est quoi les obstacles que tu vois?
Ben, il y a beaucoup d'obstacles, je te dirais. D'abord, quand ça vient juste à l'accès aux ressources, la grande majorité de ressources qu'on peut trouver certainement sur le web sont offertes en anglais. Donc, quand on veut explorer c'est quoi être queer ou trans, on doit souvent faire ça en anglais. Et puis ensuite, quand on vit dans un monde francophone, surtout dans un monde francophone minoritaire, puis qu'on essaie d'exprimer ces identités-là, on n'a souvent pas le langage ou du moins pas un contexte où est-ce qu'on peut exprimer qu'est-ce qu'on a vécu. Donc, il y a plusieurs enjeux qui affectent nos communautés, mais vraiment, juste la légibilité de nos identités, c'est la première chose qui me vient en tête.
Alors, moi, je vais te faire parler sur un plan personnel aussi, mais je vais te faire une anecdote parce que les gens ne le savent peut-être pas en ondes, mais j'ai vécu plusieurs années dans le ROC, le Rock, le reste du Canada, dont notamment à Toronto et à Edmonton. Et je me rappelle à Edmonton où quelqu'un m'avait dit, je vais faire grâce du contexte, mais « Ah, mais nous, les seules personnes gays qu'on connaît, puis les seules qui existent, c'est des Québécois qui viennent, des Québécois gays qui viennent en Alberta, mais on n'a pas de ça chez les Franco-Albertains. » Alors toi, comment tu vis ça? Parce que tu es quand même une personne de l'Ontario, si je comprends bien.
Oui, absolument. Ben, écoute, c'est drôle que tu dises ça, ton histoire, parce que on a un peu l'effet inverse avec les personnes non binaires, du moins qu'est-ce que j'ai pu voir parfois au Québec, où il y a certains Québécois qui vont dire, ah ben, les personnes trans ou les personnes non binaires, ça, c'est une invention anglophone, ça n'existe pas chez nous.
Oui, c'est vrai, on entend ça. Ouais.
Il y a beaucoup d'intolérance, je dirais, dans toute communauté, peu importe la langue dans laquelle on vit, mais c'est certain que quand on n'est pas présenté à beaucoup de personnes queer ou trans, ça peut être difficile de savoir qui qu'on parle, mais on est toujours partout. Il n'y a pas une place qu'on n'est pas. Donc, si on ne connaît pas les personnes queer et trans, c'est pas parce qu'il n'y en a pas.
Alors, dis-moi, on a parlé donc d'avoir accès à des services, mais il y a aussi, comment on pourrait parler du fait que quand les services existent, est-ce que les gens y font appel?
Je te dirais que oui. Ouais, les services queer et trans, surtout les services communautaires, c'est-à-dire les services qui sont par et pour la communauté, sont en grande demande, surtout dans les grands centres urbains. Donc, on a mentionné Toronto, mais aussi Ottawa, où est-ce que je suis. Il y a beaucoup de demandes pour avoir accès tant à des ressources qu'à des services. Mais là, évidemment, dans ces deux grandes villes-là, je parle pour le contexte de l'Ontario, mais ça s'applique aussi à d'autres provinces anglophones. On n'a pas souvent tendance à penser comment qu'on peut adapter des services existants qui sont déjà pas grands, là. Il n'y a pas grands services, on est quand même limité, mais comment qu'on peut les adapter aux francophones, c'est toujours une deuxième question qu'on pense pas souvent.
La réalité étant, je me rappelle dans le temps où j'habitais au Canada anglais, Et il y avait le concept d'offre active, parce que si le francophone doit demander, il y a comme, c'était un peu humiliant de demander un service en français, on parlait du concept d'offre active. Est-ce que ça joue aussi dans le fait que les personnes queer ne trouvent peut-être pas ce dont elles ont besoin?
Absolument, ça joue beaucoup. Et puis, encore une fois, je parle ici pour l'Ontario, mais on a une loi provinciale qui encadre l'accès aux services en français, qui dit que dans certaines régions qui sont explicitement francophones, ou du moins qui ont une certaine proportion de la population qui est francophone, les services du gouvernement doivent être offerts, comme on l'a dit, l'offre active en anglais et en français, sans qu'on ait à demander d'avoir un service en français. Mais cette loi-là ne s'applique pas aux services communautaires parce que ce n'est pas des services provinciaux. Donc, l'offre active, bien que ça soit, on va dire, comme l'idéal, les services communautaires ne sont pas nécessairement obligés par la loi d'implémenter ça. Et puis, donc, il y a des fois des manquements.
Quels sont les autres obstacles qui existent? On a parlé de l'offre active. Est-ce que le fait de est-ce que le niveau de langue peut jouer?
Ah, ça, c'est certain. Écoute, il y a à la compétence, pardon, à l'offre active, il y a aussi le concept de compétence culturelle qui s'ajoute à ça, qui est de savoir comment parler à un public dans le langage et dans les termes qui leur sont familiers. Donc, quand on parle à des francophones queer et trans, c'est non seulement une question de leur parler en français, mais aussi de savoir comment parler des enjeux qu'ils vivent. Et puis, principalement, plusieurs francophones en situation minoritaire vivent qu'est-ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. Donc, le sentiment que le niveau de français n'est pas à la hauteur des attentes, par exemple, des locuteurs en situation majoritaire, ou qu'on fait des fautes en français et puis qu'on sent qu'on n'est pas capable de s'exprimer à un tel niveau. Donc, on préfère tout court. Tout simplement de juste s'exprimer en anglais au lieu, à place de se faire reprendre en français.
On parlait d'intersectionnalité, donc on a déjà cette première intersection d'être queer ou trans et francophone. Il y a aussi d'être queer, trans et francophone, et en même temps, peut-être qu'on est issu de l'immigration ou qu'on vient. Et là, ça ajoute aussi.
Absolument. Puis je vais dire, je parle encore de l'Ontario, là, parce que c'est ma province de résidence que je connais mieux, mais à Toronto ou dans le centre-sud-ouest de l'Ontario, il y a plusieurs immigrants francophones qui sont issus de pays qui sont, par exemple, africains. Il y a aussi plusieurs personnes qui viennent de l'Asie qui vont arriver à Toronto, qui vont s'attendre à avoir des services en français, mais que ces services-là ne vont pas être bien adaptés à leur background culturel. Donc, vraiment, ça crée des enjeux où est-ce que même si tu es chanceux d'avoir accès, si tu as la chance d'avoir accès à des services en français, qui souvent n'est pas le cas, mais même si tu as la chance d'accéder à ces services-là en français, tu risques parfois de faire face à des commentaires qui peuvent être, par exemple, stigmatisants ou qui peuvent être racistes ou xénophobes sans même qu'on le veuille, juste par le fait qu'on n'est pas au courant des enjeux qui puissent affecter ces communautés-là.
Donc, oui, c'est donc, ça fait, ça rend la situation compliquée. Et si on fait rien, alors je sais que l'article est quand même pour nous sensibiliser, mais s'il se fait rien, si on laisse les choses aller, qu'est-ce qui va arriver, à ces identités-là ou à ces personnes-là?
Bien, ça risque d'une part de vraiment. Ça risque de rendre l'assimilation linguistique beaucoup plus forte, comment dire.
Parce,
Ça
oui, ça va empirer l'assimilation parce que ça existe. L'assimilation est un phénomène documenté dans les statistiques, là. Alors, donc, ça serait un facteur contribuant à l'assimilation.
absolument. Puis surtout dans les espaces queer, comme j'ai dit. On a une tendance à faire à se présenter en anglais puis à penser que tous les services queer doivent être accédés en anglais parce que ça, c'est la langue dans laquelle la majorité de nos ressources sont créées. Mais là, quand on veut avoir accès à ces ressources-là, qui peuvent parfois être traduites, mais parfois pas, on a souvent le sentiment qu'il faut laisser notre langue à la porte puis juste se référer à l'anglais. Et puis, vraiment, je pense que les communautés queer et trans sont très sensibles aux réalités des personnes et des communautés marginalisées. Puis que je te dirais qu'il n'y a aucun groupe queer et trans qui voudrait faire la décision consciente de dire non, je veux participer à l'assimilation des francophones. Mais en réalité, même si on a les meilleures intentions, si on ne met pas en pratique des mesures qui pourraient limiter du moins les effets aggravants de l'assimilation, on va contribuer à ça.
Le Québec étant la seule province ou la seule juridiction en Amérique du Nord où ce sont les francophones et c'est majoritairement francophone qui dirigent et tout, est-ce qu'il y aurait place à une collaboration? J'imagine que ça doit exister, mais une meilleure collaboration pour améliorer cette situation-là?
Certainement. Puis je veux noter dès le départ qu'il y a des organisations communautaires qui travaillent fort justement pour tisser des liens plus étroits entre les francophones du Québec et d'ailleurs. Donc ça, c'est un travail que je ne veux pas leur enlever, mais il y a toujours plus qu'on peut faire. Je pense vraiment que surtout le gouvernement du Québec, mais aussi, je te dirais, la population québécoise en général, après l'année 2018, où est-ce que le gouvernement provincial de l'Ontario a vraiment tenté de sabrer le financement à l'Université de l'Ontario français, puis de démanteler le commissariat au service en français, il y a eu un peu plus une connaissance des enjeux francophones en situation minoritaire. Puis peut-être, je te dirais aussi, on prend un peu plus les enjeux au sérieux maintenant au Québec qu'on le faisait avant, parce qu'on voit vraiment que c'est quelque chose qui est pertinent puis qui se passe aujourd'hui. Donc, certainement, depuis ce temps-là, on voit un public québécois qui est plus ouvert à l'idée d'être solidaire aux francophones en situation minoritaire, mais on pourrait toujours continuer à travailler sur ça, soit, comme j'ai dit, en tissant des liens avec des organismes d'ailleurs au Canada, ou en finançant nos propres ressources qui pourraient être appliquées dans d'autres provinces.
Bien, Francesco, Mécalister Caruso, merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui.
Merci à toi.